Bouchard en parle, présenté par Ludovica Le Monde Miniature, le plus grand parc de type Legoland en Amérique. Un tour du monde à travers plus de 3000 bâtiments. Place Fleur-de-Lys, entrée 1. Ludovica.ca.
7h41, on est allé faire un petit test sur le terrain la semaine dernière en groupe, Pascal, Jean-Simon et moi. Vous savez que bon, c'est le temps des fêtes, on est un petit peu sollicité à gauche puis à droite pour différentes causes, hein, que ce soit pour Moisson Québec, que ce soit pour différentes causes, les enfants démunis à l'approche de Noël, les familles plus démunies, bon, les aînés. Et on sait que c'est une période de l'année qui est particulièrement achalandée et qu'on en demande beaucoup aux gens pour redonner à ceux qui sont dans le besoin, parce que la période des fêtes, c'est supposé être un moment heureux dans la vie de tout le monde. Alors, on est allé faire un petit test sur le terrain. On va l'expliquer un petit peu là, brièvement. On a pris trois causes qu'on pensait qu'il n'y aurait pas le même degré de popularité et on a recueilli des fonds sur le boulevard Laurier. En fait, on était à la traverse pour aller au CHUL de l'autre côté, donc du côté de Place Laurier, juste en face de la traverse. Et on a demandé de l'argent dans un premier temps pour les aînés dans le besoin, je me trompe pas.
Les aînés en perte d'autonomie.
C'est ça, exactement. Les aînés en perte d'autonomie à l'approche des fêtes.
Oui.
Ensuite, on a demandé des fonds pour les enfants
à l'approche des fêtes.
Oui, exactement, les enfants démunis à l'approche des fêtes. Et finalement, pour les animaux...
Abandonnés. À l'approche des fêtes.
Exactement, c'est ça. C'est ce qu'il y avait tout le temps. C'est ce qu'il y avait vraiment à l'approche des fêtes, c'est vrai. Puis là, à la fin, on s'est dit, les animaux abandonnés à l'approche des fêtes, ça n'a-tu pas rapport? T'sais, ils sont abandonnés à l'année longue. Là. Fait qu'on a fait ces trois causes-là. Et donc, on a pris un certain temps pour chaque cause. Évidemment, on s'assurait que ce ne soient pas les mêmes personnes qui passent devant nous parce qu'on allait vraiment avoir l'air de des voleurs. Là. Mais on a essayé de recueillir en fait un certain nombre d'argent puis de passer le même nombre de temps pour chaque cause. Et nous, on pensait sincèrement que ça allait être la cause des animaux qui allait être la plus populaire.
Oui.
Et de loin, on était convaincus de ça.
En raison de la célèbre anecdote de Vez concernant le lion de montagne, qui ramène souvent, qui est une histoire où une dame avait perdu sa vie suite à une attaque de lion de montagne. Il y avait une collecte pour la personne qui avait perdu la vie, puis pour le bébé du lion de montagne, maintenant orphelin, puis c'est le bébé du lion de montagne.
C'est vrai. Parce qu'on avait retrouvé le lion de montagne qu'on avait abattu.
Oui, c'est ça. C'est vrai, t'as raison. Fait qu'on t'a convaincu que c'était les animaux qui allaient être le plus populaires et c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Jean-Simon, je vais te laisser présenter le dossier en entier. Donc, je me souviens plus c'est qui a eu l'idée, mais je trouvais que c'était une belle démonstration quand même pour voir, pour premièrement mesurer la générosité des gens, mesurer la confiance des gens envers ces différents organismes-là qui demandent des sous et aussi pour mesurer, en fait, quelle cause est la plus populaire auprès de ces personnes-là.
Et la réaction des gens aussi, la façon dont les gens qui se font aborder par des causes qui peuvent... des fois, ça ne justifie pas parce que, bon, on va s'entendre, on a improvisé, on n'avait pas de logo, on n'était pas affiché, on avait une espèce de petite boîte en plastique, on essayait d'être quand même crédible dans ce qu'on faisait, mais on n'avait pas exactement le logo, par exemple, d'Opération Enfant Soleil ou une autre cause. Donc, les premiers qu'on a essayés, c'est les aînés en perte d'autonomie. Donc, l'hypothèse de base, c'était de c'est que peut-être que les aînés vont pas aller toucher des cordes sensibles chez les gens qui souhaitent donner à une œuvre de charité. D'abord, un petit extrait pour entendre notre interprétation de collecte de fonds.
Bonjour, on amasse de l'argent pour l'organisme SOS Vieillesse pour les aînés en perte d'autonomie.
Bonjour.
On ramasse de l'argent pour SOS Vieillesse pour les aînés en perte d'autonomie à la proche des fêtes.
Merci,
merci.
Alors, il y a des gens quand même qui ont donné de façon assez importante. En passant, le nombre de personnes qu'on a croisées, c'est à peu près une centaine, 100 à 120 par cause.
Ça. Ah, par cause, OK,
ouais,
c'est ça.
Par cause, exactement. Donc, c'est un échantillon qui est équivalent à peu près pour toutes les personnes. Donc, on a ramassé 14 $ pour les aînés quand même. Donc, c'est quand même un montant intéressant. Avec des gens, par exemple, qui sont revenus. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé qui n'avait pas d'argent sur lui.
Ouais.
Il est allé à l'intérieur de Laurier-Québec. Il est ressorti puis il nous a donné de l'argent aussi.
Ah, effectivement.
C'était pour lui. Il y a des gens, des fois, qui n'ont pas de monnaie, mais ils ont quand même pris le temps de revenir pour faire leur don.
Oui, puis en passant, je veux juste souligner, parce qu'il y a des gens probablement qui se posent la question présentement. Évidemment, ce sont des organismes fictifs, SOS, Vieillesse, etc. Mais tous les fonds qu'on a recueillis vont être remis à de réels organismes pour chacun. Si vous avez fait un don pour les animaux, on va le remettre à un organisme pour les animaux. Si vous avez fait un don pour les enfants, ça va être remis à de véritables organismes. Évidemment, on ne s'est pas mis cet argent-là dans les poches.
Non.
C'était pour une démonstration. Alors, je veux juste que ce soit clair, parce que s'il y a des gens qui nous écoutent ce matin, c'est pas de l'argent qu'on a pris. Là.
Ça
ne
paye pas nos cadeaux de Noël.
Non, absolument pas. Puis ça va être vraiment remis à l'organisme pour lequel vous avez donné. Alors pour moi, c'est important de le mentionner parce qu'évidemment, SOS Vieillesse, ça n'existe
pas.
On poursuit.
Deuxième cause, c'était pour les enfants, enfants démunis. Donc encore une fois, on a tenté un pitch de vente pour recueillir les dons des gens.
Bonjour.
Un peu d'argent pour les enfants démunis à la prochaine fête.
Bonjour.
Bonjour, on arrose de l'argent pour les enfants démunis de la région de Québec à la prochaine Noël.
Bonjour.
quelques sous pour les enfants.
Merci. Très apprécié. Merci.
Écoute, il n'y a pas de petit don.
Égalité statistique, la quantité d'argent qui a été amassée pour les enfants, c'est à peu près la même chose parce qu'au total, on a ramassé un montant égal, à peu près 14 $ également pour les enfants. À quelques sous près, les aînés et les enfants ont reçu la même attention de la part des gens qui se sont fait solliciter. Et la troisième cause, ce sont les animaux abandonnés qui, au départ, étaient ceux qu'on croyait qui recevraient le plus d'attention. Alors, voici ce que ça a donné d'abord.
Bonjour, on ramasse des fonds pour les animaux abandonnés à l'approche des fêtes, notamment les cadeaux de lapins, de chiens et de chats qui sont abandonnés après.
Quelques sous pour les animaux abandonnés de la région de Québec.
Ça a été ça pendant, je ne sais pas combien
c'était
de temps.
C'était naturel, là.
Là.
Eh bien, à notre grande surprise, les animaux ont reçu absolument rien.
Zéro
pas
$0.
Hein?
Pas une scène pour les animaux.
Mais il y avait beaucoup de sceptiques. Moi, j'ai remarqué ça. Beaucoup de gens nous approchaient, peu importe la cause, à savoir, hey, ça va-tu vraiment aller à cette cause-là aussi? Il y a des gens qui se... Je trouve que c'est le genre de questions qu'on voit apparaître depuis les dernières années quand on voit des gens ramasser des dons. Là. Avant, les gens donnaient sans se poser de questions ou quoi que ce soit. Puis maintenant, avec ce qui est sorti dans les médias aussi, des gens qui s'en sont mis plein les poches, on avoue. Là.
Oh, il y a eu de la fraude là, au niveau de la collecte de fonds comme ça. Mais évidemment, on n'avait pas l'air de des fraudeurs. Là. Effectivement, on était... Bon, en fait, je pense pas que les fraudeurs ont un visage particulièrement, mais je trouvais qu'on avait l'air de bonne foi. Mais c'est vrai que tu as eu beaucoup de gens qui étaient très sceptiques et qui se demandaient si c'était des véritables organismes et si vraiment on ramassait de l'argent pour les bonnes raisons. Ça m'a surpris parce qu'ils le verbalisaient aussi. Hein, parce que tu avais le choix de passer à côté puis de faire semblant qu'on n'était pas là ou bien de nous dire vraiment, là, ça va-tu vraiment à la bonne place,
exact.
Ça, là?
Et tu parles des gens qui nous évitaient complètement. Je veux dire, on se sentait comme Moïse qui sépare la mer rouge, là, sérieusement, là. Il y a une vague qui partait à gauche, mais une vague qui partait à droite, mais personne n'allait vers nous. Je trouve qu'il y a très peu.
Tout le monde vous évitait.
Tout le monde nous évitait.
C'est vrai, puis il y a des gens qui faisaient semblant de parler au téléphone aussi.
Les regards.
Oui, la réaction des gens, moi, c'est ça qui m'a le plus surpris parce qu'on était dans un endroit public. On était vraiment au niveau du côté de Place Laurier à la traverse pour s'en aller au CHUL. Et donc, à chaque fois qu'il y avait une traverse de piétons, j'estime que c'était environ une trentaine de piétons à chaque fois qu'ils étaient là. Et là-dessus, des gens qui... Il y a eu des traverses où on a eu zéro regard. Là. Les gens ne nous ont même pas regardé. T'en as eu où on a eu quelques regards un petit peu bizarres, mais sans plus. T'en as eu qu'il n'y a personne qui est passé à un pouce de nous. Là. Les gens vraiment s'éloignaient, comme Pascal le disait. Et ça m'a vraiment, vraiment surpris à quel point les gens ne participent plus à ce genre de choses. Puis je pense pas que c'est parce que les gens sont cheap. Je pense que c'est parce que les gens sont très méfiants par rapport à la collecte qui se fait de cette façon-là. Mmh. Parce que maintenant, si on prend par exemple ici, chez Cogeco, on donne tous pour Centraide et c'est pris directement via notre pays. Mmh. Alors, de donner de l'argent à des gens qui sont là physiquement, c'est beaucoup moins fréquent. Se l'est durant le temps des fêtes pour... c'est-tu la guignolée qui passe? Là, les gens qui chantent des chansons?
Oui, plusieurs types de guignolées. On avait encore une même en fin de semaine. C'était pour la pédiatrie sociale dans le Vieux-Québec. Mais la sursollicitation, je pense, explique beaucoup cette réaction-là. Puis, faites juste le tour au centre d'achat. Faites 5-6 magasins pour faire vos emplettes. Puis, dans la plupart des magasins, à l'affaire, vous vous demandez de rajouter un petit dollar ou un petit 2 $ pour telle ou telle cause. Sur le coup, c'est pas gros. C'est vrai que quand tu regardes ta facture, tu te dis, oui. Mais à un moment donné, il se crée une espèce de c'est quel handicap? C'est quelle cause? Puis, t'es pas certain que ton argent s'en va à la bonne place. Puis, il y a eu des histoires de frais d'administration dans certaines œuvres de charité. Alors, c'est un peu normal que la personne sur le coin de la rue, à un moment donné, hop, tout à coup, même si t'as un 2 piastres au fond de la poche, t'as plus de monnaie.
Et en passant 25 226, si vous voulez ajouter quelque chose. Est-ce que vous donnez encore à ce type de collecte-là? Est-ce que vous êtes méfiant envers les gens qui essaient de ramasser des sous pour différents organismes? Est-ce que vous donnez vous-même à ces organismes-là? Je serais curieuse de le savoir parce que aussi, ce qui a été très surprenant dans cet exercice-là, c'est qu'il y avait une tranche d'âge qui donnait en particulier. Ouais. Et ça va peut-être vous surprendre, mais c'était pas les gens les plus âgés qui donnaient. Là.
Non, c'était des jeunes.
Même au contraire, c'était des jeunes.
Jusqu'à 35, je pense que c'est ceux qu'on a vu le plus s'arrêter pour nous donner de l'argent.
Oui, puis même que tu en avais beaucoup que j'estime autour entre 20 et 25 ans.
Ah oui, facile.
Ben, c'est peut-être des gens moins méfiants.
Peut-être.
C'est vrai. C'est peut-être
moi, je vais avoir tendance à donner, oui, mais je vais donner à des endroits reconnus. Mm. Si je vais à l'épicerie puis il y a une boîte de conserve d'un organisme que je connais, je vais avoir tendance à en mettre là plus qu'à n'importe qui ramasse dans la rue. Là.
Non, c'est certain, parce que c'est une méthode qui est de moins en moins vue. Fait que quand t'en vois, tu dis, c'est pas normal. Ça me semble qu'il y a d'autres méthodes maintenant pour ramasser de l'argent. Alors, 25-226, si vous avez un commentaire là-dessus, est-ce que vous donnez, est-ce que vous êtes méfiant envers ce type d'organisme-là? On a des gens qui commencent à réagir. Déjà, quelqu'un nous dit, à mon avis, Les gens sont de plus en plus méfiants. Et effectivement, puis surtout, il faut le dire, on n'avait pas de logo, nous autres. On n'était pas très bien organisés.
Moi, je n'aurais pas donné à trois personnes qui étaient sur le bord de la rue.
Moi non plus, je ne nous aurais pas donné, sincèrement. Donc, pas parce que c'est même pas à cause du logo que je n'aurais pas donné. Je pense que je serais passé à côté en faisant semblant de ne pas les voir. Parce que justement, la sursollicitation fait en sorte que tu es un petit peu tanné de voir ce monde-là partout. Puis tu as l'impression que tu donnes déjà beaucoup. Puis sur ta facture à l'épicerie, ta pièce de plus à chaque fois que tu y vas, puis le montant qui est pris sur ta paye, puis ce que tu donnes à la guignolée quand il passe dans les restaurants, tu as l'impression que tu es toujours en train de donner.
Je sais pas si ça peut être un facteur, mais vous sollicitiez des gens qui sortaient du centre d'achat.
Oui.
Qui venaient de faire des dépenses.
Ou qui y allaient. C'était dans les
deux sens. Non, ils s'en venaient, c'est ça. C'est beaucoup des gens qui s'en venaient.
On nous écrit aussi que les gens ont moins d'argent liquide dans leur poche et moins de sous, effectivement. T'as moins ça. Souvent, tu garochais un dollar ou deux, mais là, t'as plus même pas un dollar ou deux dans ta poche.
C'est vrai. Mais en fait, c'est vrai beaucoup, je pense, pour les hommes. Mais les femmes, là, on a tous une sacoche avec un portefeuille. Moi, même si je vous dis que j'ai pas de sous sur moi, j'ai toujours un 25 cents à quelque part.
Jamais aucun sous sur moi.
T'as jamais de 25 cents de part nulle part?
Jamais. Moi, quand j'en ai, c'est parce que j'ai dû sortir de l'argent puis payer avec de l'argent comptant. C'est ça. Donc, il y a un change. Mais c'est exactement ça. Presque jamais.
Ah, ouais. Moi, j'en ai toujours du change. Parce que, justement, tu as été obligé de payer comptant une certaine affaire. Fait que là, le change est dans ta sacoche puis il reste là pendant un petit bout de temps. J'ai toujours un 25 cents qui traîne à quelque part.
Il y a des gens aussi qui nous écrivent qu'eux, ils préfèrent donner des biens, de la nourriture, jamais de l'argent parce qu'ils savent pas, justement, où est-ce que ça s'en va, tandis que là, tu donnes quelque chose de concret.
Et ça, je suis d'accord. Ça, c'est vrai parce que tu es convaincu au moins que ce que tu donnes, c'est justement. En fait, tu n'es pas plus convaincu que ça va aller aux bonnes personnes, mais au moins, tu sais que l'argent ne sera pas dépensé autrement. Si tu donnes une canette de conserve, ben, tu sais que la personne qui va en bénéficier, ça va être pour la manger. Elle ne la revendra pas sur le marché noir, là, on s'entend. Quelqu'un nous dit pratiquement toutes les semaines, il y a des emballeurs pour des causes dans les épiceries. Puis c'est vrai, il y en a beaucoup. Puis surtout à l'approche de Noël, il y en a pas mal plus qu'avant. Fait que ça peut rendre les gens un petit peu tannés. Il y a plusieurs textos qui commencent à entrer aussi. Pascal, si tu veux en lire quelques-uns.
Oui, en plus des activités de financement, école, sport, mineurs. Il y a de plus en plus de sollicitations au téléphone. Tu donnes à qui? Ça devient un peu trop. C'est ce qu'on nous écrit. On dit également que, on revient sur le fait que c'est du change. Là. Il dit faudrait qu'on puisse prendre PayPass.
Oui, c'est vrai.
Un petit carré, là, tu peux faire un swipe avec, je veux dire, en français, Colin.
Tu peux la glisser.
Tu peux glisser
là, pour,
ta carte dans les petits carrés Square qu'on appelle. C'est une compagnie qui a construit ça. Puis tu pourrais donner cette façon-là. C'est vrai que ça serait vraiment une bonne chose.
Oui, mais moi, je donnerais pas ma carte de crédit sur quelqu'un qui sollicite ce coin de la rue avec le Square, par exemple. Ça, je le donnerais pas, tu vois. Fait que je serais plus portée à donner une pièce ou un deux pièces qui traîne dans mes poches que de donner ma carte de crédit au complet. Michel nous dit, moi, je donne qu'aux organismes connus comme l'Armée du Salut. C'est vrai, c'est une façon peut-être de se prémunir contre les différentes fraudes, sauf que tu as quand même des organismes qui sont moins connus et qui ont toute leur raison d'être aussi, là. Puis c'est pas tout le monde qui a les moyens d'être connu autant, de faire autant de marketing, d'acheter de la pub un petit peu partout. C'est pas tous les organismes qui sont connus, mais ça veut pas dire que ce sont de moins bons organismes. Alors oui, c'est une belle façon, Michel, mais si tout le monde faisait comme vous, t'en as beaucoup d'organismes, en fait, qui devraient fermer leurs portes, là. Ensuite, Pascal, il y en a plein d'autres. Excuse-moi, j'essaie de lire en même temps.
Quelqu'un écrit, de mon côté, je préfère donner directement aux personnes qui quêtent dans la rue, parfois même un repas. Je veux voir le bien que je fais directement et non attendre.
Ça, c'est très louable. Sauf qu'effectivement, il va y en avoir qui seront pas rejoints par ça. Dans la rue, c'est souvent les personnes sans-abri. T'sais, c'est sûr que si tu veux donner pour les enfants ou pour une autre cause, ils seront pas nécessairement dans la rue directement. Mais tu sais, ce que je vois, là, c'est un consensus autour de la sursollicitation. Et c'est peut-être le fait que, justement, dans le temps des fêtes, on parle énormément de charité, toutes les causes en profitent pour faire leur collecte de fonds. T'as les guignolées des médias, t'as une guignolée à chaque semaine, à peu près pendant 4 semaines, tu sais. Mais au mois d'avril, au mois de juin, au mois de mai, c'est rare que t'as des gens qui sont postés au coin des rues pour ramasser les dons.
C'est vrai.
Si on concentrait moins, je sais pas si ça baisserait un peu l'impression d'être trop sollicité, de plus savoir où donner de la tête, puis de pas être capable de s'informer aussi. Parce que je pense qu'une chose qui est importante quand tu fais un don, c'est de savoir où ton dollar se ramasse, puis qu'est-ce qu'il va faire exactement.
Ben, c'est ce qui revient.
Et combien de ton dollar s'en va réellement aux personnes dans le besoin?
J'apprécie ce qu'ils font à la Croix-Rouge, notamment. Je fais un petit don à la Croix-Rouge à chaque année, puis à chaque année, ils t'appellent, puis ils te disent, ah, regardez ce que votre argent a fait cette année. Cette année, on a fait telle chose au Québec, au Canada, ailleurs dans le monde. J'apprécie ce feedback-là. Ça, je pense que les organismes de charité pourraient le faire, ça, avec les donateurs, en tout cas ceux qui sont enregistrés. Je ne parle pas au coin de la rue nécessairement, mais faire un suivi. Regardez, votre pièce là, que vous avez, dont vous êtes privé ce mois-ci, ben, elle a servi à à nourrir tel monsieur, telle famille dans telle région, ou encore être allé à des sinistrés à tel endroit. Ça, c'est le fun de savoir que les dons qu'on fait, pour lesquels on est sollicité, ont un résultat.
C'est vrai. Quelqu'un nous écrit aussi, en plus des activités, financement, école et sport mineur, plus la sollicitation téléphonique, tu sais plus à qui tu donnes. Et ça, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas seulement les causes pour les gens dans le besoin pour qui on donne. Vous avez toujours une équipe de soccer à quelque part qui a besoin de financement. Vous avez toujours le voyage à l'école de votre enfant qui a besoin d'être financé. Fait que tu finis par donner des fois, puis c'est pas toujours à des organismes qui donnent à des gens dans le besoin. Fait qu'à un moment donné, je pense que notre capacité de donner, elle atteint certaines limites aussi, là.
Il y a une femme de 32 ans qui nous écrit: « Je ne donne pas, je vis à la limite de la pauvreté. Je suis pas assez riche pour donner aux plus pauvres que moi. Je donne par contre beaucoup de choses usagées comme du linge. » Ça, c'est les gens que j'applaudis le plus. Ceux qui ont presque rien, sinon rien, qui décident de donner quand même à ceux qui ont encore moins qu'eux, d'une certaine manière. Comme elle a décidé de faire des dons de vêtements, ce qui va être très bien pour plusieurs sans-abri de la région, mais elle peut pas donner plus que ça. Par contre, je pense pas que c'est un petit don, ça.
Non.
Au contraire.
Quand tu donnes. Comme tu disais, il n'y a pas de petit don.
Non. Quand tu donnes ce que tu es capable de donner, en fait, tu maximises ta capacité à donner, puis c'est ça qui est important.
Autre texto, Noël, on dépense déjà, je trouve. C'est vrai qu'on essaie de récolter beaucoup à Noël. Hein. C'est là qu'on voit tout le monde là, qui se mobilise pour aller chercher des sous, peu importe où, n'importe quel organisme. Puis c'est le moment de l'année où on s'endette, où on achète des cadeaux, où ça nous coûte cher de nourriture ou quoi que ce soit. Peut-être qu'on pourrait essayer. Je sais que ça va faire en sorte à Noël, on est généreux, c'est un temps de bonté, c'est un temps de grâce, de joie. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'on devrait peut-être donner à d'autres périodes ou solliciter les gens à une autre période que celle-là.
Quelqu'un nous écrit: par ma propre initiative, à 13 ans, j'ai fait une collecte dans mon quartier pour Haïti après les tremblements de terre. Le lendemain, j'ai fait un dessin pour chaque personne qui avait donné, puis je suis allée les porter chez eux. Arrivée à l'école, en donnant mes dons, mes amis essayaient de me convaincre de les garder pour moi. En regardant en arrière, c'était un peu naïf de faire ça. Mais c'était pas naïf pantoute, c'était très gentil, au contraire. C'était très, j'espère.
Et ses amis voulaient qu'il garde le cash qu'il avait ramassé.
Oui, c'est ça. Là, l'histoire dit pas s'il a fini par écouter ses amis ou s'il a vraiment donné les dons à Haïti. J'imagine qu'il les a donné à Haïti, j'espère, là.
Non, contre le loup pas.
Non, c'est ça. Racontez-le pas sinon, là. Je serais un peu gêné. Mais c'était pas naïf de faire ça. En fait, je trouve que c'est un très, très beau geste. Surtout à 13 ans, d'être aussi gentil puis d'avoir autant de cœur pour les autres. Je trouve ça extraordinaire.
Ouais, sauf que dans le cas d'Haïti, ça a été prouvé qu'il y a eu des détournements.
Ça, oui. En fait, ça dépendait à qui tu les donnais, effectivement. T'as eu plusieurs personnes qui ont ramassé des dons. T'en as certains qui sont vraiment allés à Haïti, par exemple. Mais t'en as, effectivement. Disons que Haïti n'a pas encore vu la couleur de cet argent-là. Là. Merci beaucoup, Jean-Simon. Il est 7h58.
Duhem prend les commandes du retour à la maison au FM 93.
Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écrivent au studio@fm93.com ou qui nous textent au 25226. Tout le monde te félicite.
Merci.
On est bien fiers, bien contents de toi. Puis quand ça dure, ben il y a une seule et unique raison, Dan. C'est parce que le public t'aime.
On sent comme la poune, soudainement.
Non, ben,
c'est bien dit.
Bon, ben la poune. Bon match, bon
Dan poune.
Le retour d'Éric Duhem, lundi au vendredi, 14h.
Ici Vicky pour Vicky vous le dit. Volkswagen offre la maintenance prépayée qui permet des paiements plus prévisibles. Les jours de la semaine sont aussi prévisibles. Après samedi, vient le dimanche. Et après dimanche, c'est lundi. Le lundi, on doit travailler. Sauf si vous avez pris un rendez-vous d'entretien. Donc, avec la maintenance prépayée, vos paiements seront plus prévisibles et vous n'irez pas travailler le lundi. Wow!
Pour plus de détails, visitez vw.ca.
Volkswagen. Tim Hortons sert maintenant des déjeuners en tout temps. Oui, un délicieux petit matin quand vous le voulez. Une galette de pommes de terre croustillante à n'importe quelle heure. OK, c'est beau, là, on a compris. Déjeuner en tout temps, en tout time, dans les restaurants participants.
Petite question, vrai ou faux? Les personnes qui planifient et réservent leurs vacances hivernales dans le sud au mois de décembre ont une meilleure vie amoureuse. Il n'y a qu'un moyen de savoir. C'est la toute première vente de pâtisserie Sell-Off, avec des rabais sur la crème de la crème des hôtels. Tout comme les meilleures pâtisseries, les meilleurs hôtels se vendent vite. Ravivez la flamme dans votre vie amoureuse. Visitez-nous au
vacancesell-off.com.
Le plus grand magasin de microbrasserie au Québec est au cœur de Limoilou. Alimentation L'Impact. Plus de 600 variétés de bières et plus de 60 000 bières au froid. Aussi, plus de 60 plats cuisinés et toujours des promotions. Alimentation L'Impact, 1600 4e avenue.
Vous avez entre 45 et 65 ans et vous voulez contribuer à la recherche de demain? Nous avons quelque chose pour vous. Syneos Health est à la recherche d'hommes et de femmes en bonne santé et non fumeurs pour une étude clinique à Québec. Faites comme des milliers de personnes et participez à une étude clinique chez Syneos Health. Recevez jusqu'à 2 800 $ pour votre participation. Inscrivez-vous à monétudesyneossanté.com. monétudesyneossanté.com. Contribuez avec nous à la médecine de demain.
Besoin d'une ambulance ou d'un transport médical? Desserrcom est là, digne de votre confiance au moment opportun pour vous et tous ceux qui vous sont chers. À l'approche de Noël et pour la nouvelle année, tout le personnel de Desserrcom vous souhaite une parfaite santé et beaucoup de bonheur.
Heureux temps des fêtes!
Quand on choisit un véhicule, on veut faire le meilleur achat qui soit. Et selon les experts automobiles dans bien des catégories, le meilleur achat, c'est un véhicule Mazda. Qu'on veuille une voiture sport ou compacte ou encore un véhicule utilitaire, le meilleur achat selon le guide de l'auto et l'annuel automobile 2019, c'est Mazda. Surtout que ces meilleurs achats sont tous offerts avec Mazda illimité. La meilleure garantie à kilométrage illimité au pays. Le meilleur achat, la meilleure garantie à kilométrage illimité, c'est Mazda. Détails sur Mazda.ca et chez vos concessionnaires Mazda.
Faites-vous plaisir pour la période des fêtes. Offrez-vous les produits de la mer du Québec, comme la queue de homard, le flétan du Groenland, les moules, la crevette nordique. Offrez-vous des repas mémorables. Les savoureux produits de la mer du Québec, disponibles dans toutes les épiceries.
Les stations Cogeco présentent le succès économique du jour.
Pour arriver à plus de souplesse dans la production de ses pizzas, Aliments Rustica investit plus de 4 millions de dollars dans l'automatisation de ses opérations. L'entreprise d'Anjou, fournisseur privilégié de Nestlé du Canada, utilisera désormais une technique en flux continu pouvant s'adapter aux différentes recettes de ses pizzas, qu'elles soient fraîches ou surgelées.
Le succès économique du jour. Une initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec et Cogeco Média.
Flash pub. Flash pub.
Où est-ce que vous trouvez de belles céramiques, des bois flottants et des vinyles Click prêts à emporter à prix d'entrepôt? Chez Céramique L'Entrepôt 850 Pierre-Bertrand.
FM 93. Ça me parle.
Ça me parle de ce qui m'intéresse, ce qui se passe dans ma ville.
93.
Ça me parle avec Sylvain Bouchard, Doc Mailloux, José Arsenault, Myriam Segal, Luc Lavoie, Éric Duhem, Dan Pou, Paul-Raphaël Charon, Marc Boilard.
93.
C'est mes enjeux, mes intérêts, ma vie. Ça vient me chercher, ça m'interpelle, ça me parle.
FM 93. Ça me parle.
Les actualités, une présentation de Calinette qui célèbre ses 25 ans avec 25 voyages à gagner. Vous êtes client, vous avez votre chance de gagner.
FM 93.
Jusqu'à 9h30, vous écoutez
Bouchard en parle.
Avec Élisabeth Crête.
Il est 8h03 à Vez. Comment ça se passe dans le trafic ce matin?
Je vous rappelle que l'autoroute du Frey-Montmorency est fermée en direction est à l'approche du pont de l'île d'Orléans. Il y a eu un accident plus tôt cette nuit. On fait le détour par la voie d'accès pour le pont de l'île. Ça crée un petit bouchon, mais rien de très dramatique. Et je vous rappelle que c'est seulement en direction est. Sur Capitale, direction ouest, ça ralentit à la hauteur de Destimoville jusqu'à Laurentienne. Laurentienne, c'est de... Le Bourgneuf, à peu près, jusqu'à... En fait, c'est l'accès à Capitale-Ouest où il y a une petite attente de rien. Henri IV, ça va bien. Petit ralentissement de rien à Chauveau. Et après ça, dans le chantier de Capitale à Amel. Et sur la rive sud, il n'y a pratiquement plus d'attente là, avant d'entrer dans les échangeurs qui mènent au pont de la Porte. Ça va être une semaine relativement tranquille. Il y a beaucoup de gens en vacances déjà cette semaine.
La circulation, présentée par le grand solde des fêtes de Paquette Nissan. Louez le Rogue 2019 à 59 $ par semaine sur 60 mois avec nœuds d'hiver, 50 changements d'huile et 500 $ de crédit.
Éric Kerr veut s'attaquer aux incompétents en informatique. En entrevue au Journal de Québec, le nouveau ministre de la Transformation numérique n'a pas mâché ses mots à l'endroit des fonctionnaires qui répètent constamment les mêmes erreurs. Lorsqu'il siégeait dans l'opposition, M. Kerr réclamait une commission d'enquête sur les dérapages informatiques. Ce n'est plus le cas maintenant qu'il est ministre, mais il promet de s'attaquer lui-même au problème. Pierre Moreau renonce à la direction du Parti libéral du Québec. L'ancien ministre libéral l'a confirmé sur les réseaux sociaux. À la surprise générale, M. Moreau avait été défait dans sa circonscription de Châteauguay lors des dernières élections québécoises du 1er octobre. Un piéton a été happé mortellement la nuit dernière sur l'autoroute du Frey-Montmorency. L'accident s'est produit peu après minuit à la hauteur des chutes en direction est. L'homme de 27 ans de Lévis a malheureusement perdu la vie suite à la collision.
Le Canadien reçoit ce soir la visite des Bruins de Boston. Le Canadien possède un point d'avance seulement au classement sur les Bruins. Les Flyers de Philadelphie ont nié des rumeurs voulant qu'ils congédient leur entraîneur-chef Dave Axtell pour le remplacer par Joel Quenneville, qui a été congédié plus tôt cette saison par les Blackhawks de Chicago. Et au football de la NFL, a noté les victoires de Pittsburgh 17-10 sur la Nouvelle-Angleterre, de Philadelphie 30-23 sur les Rams de Los Angeles et la défaite surprise de Seattle 26-23 contre San Francisco.
superbe semaine qui nous attend avec des températures assez agréables. On parle de moins 8 comme minimum mercredi, sinon mardi, moins 7. Et aujourd'hui, c'est moins 2, assez confortable. Même que ça va augmenter tranquillement cette semaine, vendredi, samedi, on a jusqu'à 4 degrés. Pour aujourd'hui, neige intermittente, accumulation de 2 cm prévue, presque rien. Et il fait moins 2 à Québec.
FM 93, ça me parle.
8h05, là, je vais avoir besoin des auditeurs. Au 25-226, on va avoir besoin de votre opinion là-dessus. Si vous voulez la donner par téléphone même, vous pouvez nous appeler au 670-9330 parce que je pense que le sujet va être assez divisé. Vous savez, quand on commet un impair, quand on coupe quelqu'un sur la route, par exemple, puis on est conscient qu'on a fait une erreur, on a comme tendance à regarder un petit peu de côté quand on le dépasse après, hein, pour être bien sûr qu'il ne nous regarde pas. Puis, ah, soudainement, j'ai quelque chose à faire là, sur mon GPS, là, fait que je regarde un petit peu plus à droite pour être sûr qu'il ne voit pas notre visage.
Je change de poste de radio.
C'est ça, parce qu'on est gêné. Je gosse sur la température. Il fait trop chaud, mais ça va changer. Je vais ajuster mon siège. Ouais. On est un petit peu gêné parce qu'on sait qu'on a fait une erreur. Et est-ce que ça nous, est-ce que c'est un effet dissuasif pour commettre l'erreur plus tard? Ben non, parce que tu sais que tu vas pouvoir te cacher de toute façon la prochaine fois que tu vas couper quelqu'un aussi. La SQ étudie une possibilité par rapport aux conducteurs qui sont pris en état d'ébriété. Ça se fait en Ontario. On étudie la possibilité donc de prendre exemple sur nos voisins de l'Ontario en publiant la liste des noms des personnes qui sont arrêtées pour conduite avec les facultés affaiblies.
Oh.
Ça veut dire que vous revenez de votre party de Noël vendredi qui s'en vient, là, et puis vous avez pris un petit verre de trop, vous êtes pris dans un barrage et vous êtes arrêté à 0.09. Votre nom sera publié, donc, dans je ne sais pas trop où il publie, probablement sur le site de la Sûreté du Québec ou un site policier quelconque, et tout le monde va savoir que vous avez été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies. On dit qu'on veut faire ça parce qu'ailleurs, au pays, en fait, les provinces qui ont adopté cette façon de fonctionner-là, ben apparemment que ça a un effet dissuasif pour ces gens-là, soit de recommencer ou pour les autres qui ne se sont pas fait pogner, de s'assurer de ne jamais se faire pogner.
Je peux bien croire.
Qu'est-ce que vous en pensez? 25226 ou studio commercial fm93.com ou même par téléphone, c'est 709330. Est-ce qu'on devrait publier la liste des gens qui se font arrêter pour conduite avec les facultés affaiblies?
Je pense que c'est vrai que ça peut avoir un effet dissuasif, mais en même temps, j'ai comme un malaise avec ça de mettre sur la place publique quelqu'un qui a commis ce genre d'erreur-là.
Moi
c'est
aussi.
Impardonnable, j'en conviens. C'est sûr que tu as le réflexe de prendre ta voiture après avoir bu. Waouh, c'est vraiment pas avoir réfléchi. C'est facile de dire non, j'ai trop bu. Puis j'adore le truc de Sylvain, l'animateur de ce show, qui dit... Crime, si t'es pas sûr d'être en état de conduire, prendre une bière de plus, là, tu vas être sûr que tu peux pas conduire. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça excellent. Mais faut dire que ça prend pas beaucoup de jugement pour y aller. Cependant, d'aller mettre quelqu'un et l'exposer sur la place publique de cette façon-là, j'ai un malaise.
Moi aussi, j'ai un malaise. Je suis pas certaine que je suis 100% d'accord avec ça. Faut savoir aussi qu'il y a certains corps policiers ontariens qui diffusent les noms de tous ceux qui sont arrêtés, tandis que t'en as d'autres qui publient le nom de ceux seulement qui ont causé une collision ou qui sont des récidivistes de l'alcool au volant.
Ah,
pour les récidivistes, là, on commence à jaser. Ouais. Je te dirais que mon malaise est un petit peu moins grand. Par contre, là, je veux dire, tous ceux, ce matin, qui n'ont jamais pris leur char, qui n'ont jamais pris le volant avec une bière de trop dans leur vie au complet. Si vous êtes capable de dire ça ce matin puis dire, moi, jamais de ma vie, j'ai été un petit peu au-dessus de la limite, ben, premièrement, je vous crois pas. Puis deuxièmement, si oui, ben, vous êtes des saints. Là,
non,
vraiment.
Moi, je les félicite, au contraire.
Ben, je les félicite parce que, excusez-moi, là, c'est pas vrai qu'il y a personne ici ce matin qui nous écoute, que ça lui est jamais arrivé une fois de savoir qu'il était peut-être un petit peu au-dessus de la limite puis qu'il a pris sa voiture pareil.
Ah, mais on n'encourage pas ça, par exemple.
J'encourage pas ça, absolument pas. Sauf que, est-ce que vous auriez aimé qu'après cette erreur-là, votre nom soit publié après une première offense, alors que vous vous sentez déjà assez mal. Puis admettons que ça a relativement bien terminé, en ce sens que vous êtes fait pogner dans un barrage, il n'y a pas eu de blessé, il n'y a pas eu rien. Vous avez eu votre leçon en masse. Est-ce que votre nom devrait être publié comme humiliation publique pour ça?
Ben, c'est parce que s'il n'est pas publié, tu n'as pas beaucoup d'effets dissuasifs, là.
Et ça revient souvent là, par texto en ce moment. Il y a des gens qui disent, écoutez, pourquoi on ferait ça avec les gens qui ont bu au volant, mais on ne le fait pas avec les pédophiles? Ça revient vraiment souvent. Mais je comprends qu'ils se posent la question de savoir c'est quoi la priorité.
Ben, c'est parce que là, en ce moment, il faut savoir que c'est étudié de la part de la Sûreté du Québec, tandis que le registre des pédophiles, au moment où on se parle, non, c'est pas une possibilité. Là. Alors, la priorité, on peut se questionner là-dessus. Au téléphone, on a Charles qui veut nous parler. Bonjour, Charles.
Oui, bonjour, vous allez bien?
Oui, très bien, vous-même?
Oui, très bien. C'est un autre dossier. Moi, j'appelle carrément juste pour ça, en plus. Parce que tu fais une offense criminelle, puis on se met à dire à tout le monde qu'est-ce que tu as fait. Ben OK, go, faisons-le avec le pédophile. Ça n'a pas un effet dissuasif, ça. Tu sais, il y a viol sur un enfant à la base. Je pense pas que... Je pense que s'ils veulent s'amuser là-dessus, ben, qu'ils dévoile tout ce qui, puis qui ont fait des effets dissuasifs sur un peu tous les crimes, là, cette partie-là, moi, ça me dérange pas.
Ben, c'est ça l'affaire. C'est que là, c'est comme je disais, c'est vrai que c'est deux choses qui sont différentes, mais pas tant que ça. Parce que le point là-dedans, c'est que la Sûreté du Québec est en train d'étudier cette possibilité-là, alors qu'on se bat depuis des années pour essayer d'avoir un registre public des délinquants sexuels.
Ben,
et que là, présentement, c'est pas quelque chose qu'on va voir dans un avenir rapproché. Tandis que la Sûreté du Québec. C'est ça, exactement. Merci beaucoup d'avoir appelé, Charles.
Oui. C'est un fraudeur dans ta famille, tu sais pas, ou le nouveau chum à ta sœur, tu sais, ça serait peut-être le fun de le savoir, et ainsi de suite. Donc, why not? Pourquoi pas sur tout rendu là,
ça? Ben, tant qu'à ça, c'est vrai, on peut se poser la question. Merci beaucoup d'avoir appelé.
Merci beaucoup. Merci, bonne journée.
On a Claude maintenant qui voudrait nous parler. Bonjour, Claude.
Oui, bonjour.
Oui.
Ben, moi, je vais vous dire, là, la façon dont je le vois, là, c'est sûr que moi, ça m'est jamais arrivé, fait que c'est facile de dire, oui, qu'ils émettent tout, là, tu sais, il n'y a pas de trouble. Mais, j'ai vu plusieurs jeunes, mettons entre 25 et 35, là, avoir plusieurs fois, perdre plusieurs fois leur permis de conduire. Eux autres, j'émettrais, c'est clair. Mais quelqu'un que c'est la première fois, là, puis que c'est une erreur, puis c'est des choses qui peuvent arriver, tu sais, à un moment donné, moi, j'ai pas un gros gabarit, ça pourrait m'arriver de prendre trois gorgées de trop, puis ça y est, bingo. Puis à cause de ça, je serais dans un... Ben non, pas la première fois. Mais quand c'est des récidivistes, hey, go, là, hey, faites-le, là.
Mais la peur, c'est que si c'est la première fois que vous vous faites prendre, il y a des mots de bonne chance que ce soit pas la première fois que vous ayez été un danger, parce que c'est pas la première fois que vous avez pris le volant avec un taux
d'ébriété. Ben peut-être, mais à ce moment-là, on va s'en prendre encore, parce qu'à ce moment-là, on sera sur le registre.
Donc, c'est pour vous, la première offense, on publie pas. À partir de la deuxième, de la première récidive, finalement, c'est là qu'on peut commencer à publier le nom.
Oui, madame.
Bon, ben, je suis assez d'accord avec vous, Claude. Merci beaucoup d'avoir appelé.
Merci.
Pascal, il y a plusieurs textos qui entrent depuis tantôt, si tu veux en lire quelques-uns.
Oui, je n'ai jamais conduit avec le moindre feeling d'alcool. J'ai déjà conduit quelques heures après avoir pris deux bières, mais sans plus. Fait que là, c'est une personne qui disait que non, ça arrive des gens qui ont jamais pris le volant après avoir un petit peu trop bu. Quelqu'un aussi qui dit, s'il s'agit d'une deuxième offense, peut-être que ce serait bien, effectivement, si on ouvre la porte avec l'alcool, il faut être prêt à l'ouvrir pour d'autres offenses criminelles.
Ben, c'est ça l'affaire, ça, c'est là. Sûr. Ça, c'est vrai, là. Parce que oui, si vous êtes prêt à l'ouvrir pour l'alcool, puis je vais vous suivre là-dedans. Mais le problème, c'est si vous l'ouvrez avec l'alcool, mais vous le fermez pour toutes les autres offenses. Et en passant, déjà aujourd'hui, si vous vous faites prendre avec conduite en état d'ébriété puis vous causez un accident, il y a des bonnes chances que les médias rapportent l'accident et que votre nom soit déjà publié. Ben, donc là, on parle de gens...
Assuré,
c'est ça, exactement. Donc là, on parle de... Moi, mon malaise, il vient de celui qui se fait arrêter à genre 0.09, là, t'sais, juste au-dessus de la limite, que c'est sa première offense puis il se fait prendre dans un barrage et il n'a pas causé d'accident puis il regrette son geste puis tu sais pertinemment qu'il ne recommencera plus jamais. Est-ce que cette personne-là mérite d'être humiliée publiquement? Pis c'est là, mon petit malaise.
Et à ça, Dave ajoute, non, franchement, c'est le juge qui décide de la culpabilité. Tu peux échouer dans un barrage, mais être acquitté en cour par la suite. Donc, lui, il trouve que c'est un petit peu trop précoce de faire ça sans qu'on soit passé en cour.
Ça, c'est vrai.
Il faut que la personne est déclarée coupable. Mais le problème, c'est un peu la même chose qu'avec n'importe quel registre. C'est que d'avoir le nom de ces personnes-là qui est disponible à tout le monde, ça encourage des gens de type vigilante, là, qui vont décider qu'eux autres, toutes les personnes qui prennent le volant après avoir pris de l'alcool, ils se vengent contre eux autres, font du vandalisme et autres, là. Je sais pas si c'est une bonne façon d'évoluer comme société, de mettre disponible à tout le monde en grosses lettres le nom de tous les contrevenants, peu importe le crime. T'sais, on peut se poser la question pour les crimes contre la personne, mais pour un crime comme celui-là, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va réellement dissuader les gens.
Si vous voulez savoir, même Hubert Sassy, le président d'Éducalcool, a un petit malaise avec ça en disant, il me semble que ça va un petit peu à l'encontre de la présomption d'innocence, qui est une notion, qui est une valeur qui prévaut au Canada ou qui est supposée, en tout cas.
Oui, mais ça peut être, comme on le disait, là, à partir du moment où tu es trouvé coupable en cour. Mais en même temps, tu parles de quelqu'un qui se fait prendre à 0.09, il est-tu plus dangereux que quelqu'un qui roule à 140 dans une zone de 100?
Bien, c'est une bonne question, ça aussi, tu sais. Puis celui qui va se faire arrêter...
À 140, il va avoir une étiquette, mais son nom n'apparaît pas nulle part, là.
Mais c'est-tu quoi? Le très grand excès de vitesse, par exemple, il va probablement être rapporté par les médias, mais le nom du conducteur
presque
sera
toujours rapporté.
Oui, mais est-ce que le nom du conducteur a été mis, par exemple?
Pas toujours.
C'est rare, c'est assez rare. Moi, je me souviens que la marque du véhicule va l'être souvent.
On parle
d'un
conducteur de X nombre d'années.
Exactement. Quelqu'un nous écrit, c'est parce que les capacités affaiblies, c'est un fléau au Canada, plus que les pédophiles. De plus, les sentences aux criminels sont tellement bonbons que ça ne fait pas vraiment d'effet dissuasif. C'est un minimum de 3 cas par semaine de capacité affaiblie qui ne sont pas diffusés nécessairement aux nouvelles. Je suis d'accord, mais est-ce que l'effet dissuasif a été prouvé ailleurs? Et c'est ça la question que plusieurs experts se demandent.
C'est pas de punir en plus les contrevenants, c'est d'avoir un effet dissuasif.
Ah non, c'est ça. Fait que si l'effet est plus ou moins prouvé, parce que c'est ça que les experts disent ce matin, en passant, l'effet dissuasif n'a pas nécessairement été démontré de façon très, très éloquente ailleurs. Alors, si l'objectif n'est même pas atteint, là, tu es vraiment dans un public shaming. Excusez-moi l'expression.
Non, mais on n'a pas besoin de faire ça. Là.
Exactement.
Quelqu'un qui dit qu'on donne des vraies sentences à la cour et non dans les médias, il trouve que lui, la problématique est là. C'est quelqu'un n'est pas assez puni en cour.
Ensuite, quelqu'un dit, s'il s'agit d'une deuxième offense, peut-être que ce serait bien. Effectivement, si on ouvre la porte avec l'alcool, il faut être prêt à l'ouvrir pour les autres offenses criminelles.
Deuxième offense ou à partir de point 12 ou à partir de point 14 aussi, point 9, point 10, point 09 ou point 10, on s'entend que c'est...
Ensuite, oui, c'est vrai. Ensuite, quelqu'un nous dit la Sûreté du Québec est forte pour étudier bien des choses, mais pas pour réagir. Ça, c'est vrai. Là. Il y a plusieurs idées qui sont à l'étude présentement. Ça ne veut pas dire que ça va être mis en place. Là. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils y réfléchissent présentement. Et on sait aussi que c'est en place dans d'autres provinces, dont en Ontario.
Mais autant que j'ai un malaise avec cette façon de faire-là, là, certainement, j'ai un gros malaise. Mais quand tu y penses personnellement, c'est sûr que c'est dissuasif. Est-ce qu'on a assez réfléchi à la question? Est-ce qu'on a assez étudié la question? Non, certainement pas. Mais dans votre vie personnelle, seriez-vous à l'aise de voir votre nom affiché comme ça sur la place publique si vous avez .09.
Non, pas moi. Là.
À la base, c'est dissuasif, c'est oui. Sûr. Mais est-ce que ça va entraîner beaucoup plus de problématiques que d'autres choses? Peut-être.
Mais c'est dissuasif sur le coup. Quand on y parle maintenant, c'est facile à parler autour de la table. Mais la journée que la personne va être à son party de Noël puis qu'elle prend un verre de vin puis qu'après ça, un petit shooter, est-ce qu'elle va vraiment penser à cet effet dissuasif-là ou elle va y aller avec le flot de la soirée? C'est ça mon point. Là. C'est là où il faut prouver vraiment qu'il y en a eu moins.
C'est parce qu'il faut que ce soit dissuasif pour le reste du monde, pas pour la personne dont le nom est publié.
Exactement.
Là. Certainement.
En passant, c'est 709330 si vous avez quelque chose à dire par téléphone aussi. Quelqu'un nous dit, ne mélangeons pas tous les dossiers. L'objectif est de dissuader le coupable. Pourquoi attendre à la deuxième fois à ce moment-là? Qu'il ait le temps de ruer quelqu'un, on n'aurait rien gagné. On a peur de faire partie un jour de cette liste. C'est pour ça qu'on veut une marge de manœuvre inacceptable. Commençons par l'alcool et les autres par la suite.
C'est un peu en réponse à Claude qui nous a appelé, qui disait, moi, je le mettrais, oui, le registre, mais pour une récidive.
Oui.
Quelqu'un nous écrit, toutes les personnes qui ont été coupables ou le seront, leur nom est déjà disponible sur le Plumitif et c'est déjà public. C'est effectivement vrai, ça.
Oui, sauf qu'on n'y va pas.
Qui va voir ça?
C'est ça l'affaire. C'est qu'on n'y va pas parce que c'est accessible, oui, sauf que c'est une démarche là, pour avoir accès.
Mais la SQ, la SQ, dans le cas que tu rapportes, est-ce qu'ils l'affichent partout sur les réseaux sociaux ou est-ce que c'est affiché?
Le fait pas,
ils le font pas, c'est ça. Mais présentement, de quelle façon c'est affiché, c'est ça là, que j'ai pas comme information.
Non, est-ce que c'est dans les journaux. Là.
C'est ça, exactement.
Parce que si c'est pas là, on revient au point de l'auditeur qui nous écrit ça.
Quand même qu'ils publieraient sur leur site Internet.
Personne va aller là.
OPP.
Mais c'est ça. C'est seulement dit que c'est diffusé sur Internet. Mais à quel endroit sur Internet, là, ça, je ne le sais pas. Là. Sauf que si c'est sur le site du corps policier seulement, effectivement, je ne pense pas que c'est des sites qui sont visités très, très souvent.
Il faut que ce soit dissuasif pour les autres. Pas pour la personne qui s'est fait prendre. C'est pour les autres, pour éviter qu'ils prennent le volant avec l'alcool dans le corps.
Le prochain texto, c'est vrai qu'on peut y penser, puis c'est une question sociologique. Un système basé sur l'humiliation, pas certain de l'efficacité.
Mais moi non plus. Je suis pas certaine non plus. Ça dépend à un certain point. Là. Si vous avez causé un accident, les médias vont le rapporter puis ils ont raison de le rapporter. Puis ils vont nommer votre nom puis ils ont raison de le faire. Par contre, pour une première offense qui a pas causé de dommage à personne puis que vous êtes pas tellement au-dessus de la limite. Là, évidemment, si vous avez le double, là, c'est différent. Vrai. Mais si vous êtes un petit peu au-dessus de la limite puis vous faites prendre dans le cadre d'un barrage... Je sais pas.
Je pense que le meilleur effet dissuasif, ce serait de faire plus de barrages, en fait.
Oui,
ça, arrangez-vous pour qu'on en croise des barrages régulièrement. Vous allez voir que ça va baisser drastiquement.
Et pas juste dans le temps des fêtes, parce que là, il y en a énormément.
Mais c'est pas normal qu'on en croise jamais des barrages, que ce soit hyper rare. Fait que si les gens croisent régulièrement des barrages, ils vont y penser à deux fois avant de prendre le volant en état d'ébriété. C'est aussi simple que ça.
Ensuite, quelqu'un nous dit, autre cas de jugement avant le procès. Aujourd'hui, les verdicts se donnent dans les médias. C'est vrai que tout le monde bénéficie de la présomption d'innocence. C'est vrai que tu peux être innocenté une fois procès. Par contre, si vous rendez en procès avec ça, il y a des bonnes chances que les médias couvrent l'histoire aussi, comme Marc-André Grondin. Ça a été le cas la semaine dernière. Il a été en procès pour justement conduite avec facultés affaiblies. Et finalement, il a été innocenté. Sauf que le procès était public et son nom est sorti quand même. Tout le monde a su qu'il s'était fait arrêter. Donc, au niveau de la loi, il n'y a pas eu de dommages. Mais au niveau personnel, son nom a quand même été affecté. Fait qu'il faut quand même faire la différence. Si vous causez un accident, votre nom va être diffusé puis il y a raison de l'être. Là.
Mais quand tu es une personnalité, oui. Mais monsieur, madame, tout le monde, le nom, là. Tu liras même pas l'article, probablement.
Non, c'est vrai. Parce qu'il n'y en aura pas. Oui, c'est ça, effectivement. Il est 8h19, vous pouvez continuer à réagir au 25226.
Jusqu'à 9h30, c'est Bouchard en parle.
Bouchard en parle avec toute l'équipe.
FM 93, ça me parle.
On change de registre totalement. Combien de salons de massage vous pensez qu'il y a dans la région de Québec? Et là, je ne parle pas du spa Infinima, là, on comprend. Là. Je ne parle pas du Sky Spa non plus.
Je ne parle pas des massothérapeutes, je parle des masseuses.
Je parle d'un autre type de salon de massage. Jean-Simon s'est penché sur la question parce que je pense que c'est un auditeur qui t'a mis la puce à l'oreille au niveau du nombre. Hein? C'est bien
ouais,
ça?
Un auditeur qui nous a écrit parce que lui il habite en face d'un de ces salons de massage-là. Il trouve ça un peu particulier qu'ils réussissent à avoir des permis de façon assez facile dans les quartiers industriels puis qu'il y en ait quand même passablement beaucoup dans la région de Québec. Lui, il m'avançait le chiffre de 21. J'ai fait la vérification. 21, ça me paraissait gros comme chiffre. Alors, j'ai fait la vérification. Ça va peut-être vous surprendre le nombre d'un salon de massage érotique qu'il y a à Québec et Lévis. On parle de la Rive-Sud, OK? Parce que dans la liste qu'il m'avait donnée, il y en avait qui étaient fermés, parce qu'il faut dire qu'il y en a qui ouvrent, qu'il y en a qui ferment. On ne sait pas toujours le même nombre qu'il y a en activité au même moment dans l'année. Puis, dans la liste qu'il m'avait donnée aussi, il y avait des salons de massothérapie tout à fait corrects.
OK.
Il faut faire attention aussi. Pas parce qu'il y a des gens qui posent leurs mains sur votre dos qu'ils font du massage érotique.
Non, c'est ça.
C'est la plupart des salons de massothérapie, c'est autre chose complètement. Okay?
Si vous avez un massage érotique, vous allez savoir que c'est un massage érotique.
Oui, c'est ça.
Alors, il n'y aura pas de doute dans votre esprit.
La liste que j'ai, ce sont des salons qui s'annoncent réellement comme des salons offrant d'un massage érotique.
Mais ça, c'est légal.
Non.
C'est ça l'affaire.
C'est une zone grise.
C'est ça. Hein?
C'est parce que le fait de payer pour un service sexuel, c'est illégal. Okay? Si vous êtes pris dans une circonstance où vous payez les services d'une prostituée ou vous recevez un service sexuel contre rémunération, c'est illégal. Le fait de les offrir, par contre, est légal. Donc, depuis qu'ils ont changé le code criminel, une femme qui se prostitue ou une femme qui exerce le massage érotique, elle peut pas être accusée au criminel. Le client peut l'être, par contre.
Donc, la masseuse est légale. Oui. Le client qui reçoit le massage, il l'est pas.
C'est ça. C'est assez particulier.
Et l'établissement en tant que tel, donc, il l'est techniquement. Là, parce qu'eux autres, ils offrent.
Le problème, c'est que une fois que ça se passe derrière les portes closes, et c'est toujours comme ça que les propriétaires de salons de massage le disent, ouais. Il faut que les policiers soient conscients, voient qu'il se passe une activité ou qu'il y a une plainte. Sinon, okay. Il se passe absolument rien. Parce que le client rentre, il s'en va derrière la porte close, puis après ça, ben, le propriétaire dit « Ah, ben, moi, après ça, hein, je sais pas ce qui se passe en arrière de la porte close, c'est plus de mes affaires. » Okay? Bon, évidemment, tout le monde sait ce qui se passe en arrière de la porte close. Okay? Mais les policiers vont de temps en temps faire des descentes, mais quand il y a des plaintes ou quand il y a soupçon qu'il y a des mineurs qui travaillent là, par exemple. Sinon, généralement, ils les laissent relativement en paix. Et il y en a plusieurs dans les quartiers industriels, parce que c'est des zones où est-ce que les règles de zonage sont moins sévères que, par exemple, à Blain-Centreville. Vous n'en verrez pas pousser un en face de la côte Saint-Sacrement. Là,
non, c'est ça.
Le zonage ne permet pas. Mais dans les quartiers industriels, d'ailleurs, pas loin d'ici, il y en a plusieurs. Dans un rayon d'à peu près 3-4 km, il y en a 2-3 salons de massage érotique. C'est parce qu'il y a plusieurs parcs industriels pas loin d'ici, le Franck Carrel et compagnie. Donc,
c'est pas marqué à la porte. Là.
C'est pas marqué à la porte.
Non, c'est ça.
Faut le savoir. Mais ce sont des salons qui s'affichent sur des sites web. Ça aussi, en théorie, c'est pas légal, mais ils le font. Là.
Donc là, de la façon dont tu parles, il y en aurait genre 50-60 à Québec.
Non, il n'y en a pas 50-60. Il y en a 14 quand même.
14, OK.
À Québec et Lévis, mais il y a quand même l'embarras.
Combien
choix.
À Québec, combien à Lévis?
12 à Québec, 2 à Lévis.
Okay. Okay?
Alors, le plaisir des sens, l'Éden, l'Opale, le Black Diamond, le privé, le promassage, le privé, la coquine, le lotus, le détente 7e ciel, la dame de pique, le Enzen, le gentleman paradise et le zone grise. Okay? Donc ça, c'est la liste de tous les salons de massage qui existent. Okay? Donc ça peut paraître beaucoup à première vue, puis vous pouvez vous dire qu'il y en a énormément. Mais quand vous comparez à Montréal, okay? Montréal, il y en a 260. Salon de massage érotique. 260. Okay. Puis ça comprend pas les escortes et autres services. On parle vraiment de salon de massage érotique.
Oui, c'est ça. Là.
260 à Montréal, 14 à Québec. Au prorata de la population, il y en a 8 fois plus à Montréal qu'à Québec.
C'est normal, on est tellement plus stressé à Montréal. On a besoin de détente.
Il y a 8 fois plus de salons de massage
au prorata
de
la population. Ouais, au prorata de la population.
Il y a sûrement plus de clients aussi. Là.
Oui.
Mais on savait qu'à Québec, c'était pas nécessairement. C'est pas l'endroit qui est reconnu pour en avoir nécessairement beaucoup, beaucoup. Que ce soit au niveau de la prostitution ou des salons de massage, on sait qu'à Montréal, il y en a plus. Mais je pensais pas qu'il y en avait plus au point d'en avoir 8 fois plus.
Il y en a énormément, mais Montréal est reconnu comme une destination de touristes sexuels. Là. C'est pas nécessairement très glorieux comme titre, là, mais en Amérique du Nord, c'est la Vice City du Nord, là, Montréal.
Donc c'était connu. Donc cet auditeur-là qui s'inquiétait, disons, du nombre de salons de massage qu'il peut avoir dans la ville de Québec, on peut pas dire que c'est nécessairement un problème à grande échelle ici à Québec.
Non, puis c'est surtout le fait que c'est relégué à des quartiers industriels, donc vous verrez pas ça vraiment. Tu sais, puis ça se peut que vous habitiez pas loin d'un salon. Là. Lui est à Charlebois, il y en a un pas loin de chez eux parce que c'est zoné puis c'est permis. Tu sais, il y en a un sur le boulevard Amel. Bon, ça se peut que vous en habitiez pas loin, mais dans les faits, ces gens-là, bon, les policiers d'abord sont au courant, ils connaissent ces lieux-là, ils savent exactement. Grosso modo, ce qui s'y passe. S'il y a une plainte éventuelle, ils vont s'y rendre. Ils ont déjà fait des descentes. S'ils pensent qu'il y a des mineurs qui sont employés là, c'est certain que la police va faire une descente. Sinon, pour le reste, il y a une certaine tolérance parce que s'attaquer à ça, ben.
Mais de toute façon, ça donne pas grand-chose. C'est ça. Puis si vous habitez proche d'un salon de massage et que ça nuit à votre quiétude et que, bon, vous faites des plaintes à la police, j'imagine qu'ils vont s'attarder au problème aussi. Je pense que les salons de massage, ils leur donnent un break en autant qu'ils ne dérangent pas le voisinage, là. Exactement. Mais la journée que ça commence à déranger les voisins, peut-être que ça va être différent, là. Puis surtout que si vous avez des enfants, puis vous habitez à proximité d'un salon de massage et que là, vous commencez à trouver qu'ils sont un petit peu trop affichés puis que ça dérange vos enfants.
C'est peu probable parce qu'ils sont dans des quartiers industriels, ils ne sont pas dans des quartiers résidentiels.
Parce que cet auditeur-là disait qu'il y habitait juste en face.
Oui, c'est parce qu'il n'est pas loin d'un boulevard assez fréquenté de Charlebourg. Ça donne que c'est zoné, c'est permis d'avoir un commerce à vocation. Puis il y en a aussi que, bon, d'abord, ils sont souvent enregistrés comme entreprise. Je suis vérifié sur le registre des entreprises. Ils ont souvent des numéros d'entreprise. Souvent, c'est services autres ou services personnels ou même certains massothérapies. Fait que, tu sais, ils sont toujours sur une ligne grise qui n'est pas tout à fait légale, mais qui ne dérange pas suffisamment pour qu'on décide de les faire fermer, finalement.
Donc, il n'y a pas de quoi s'alarmer pour la Ville de Québec au niveau des salons de massage. Mais tu vois, ça ne me surprend pas qu'à Montréal, finalement, il n'y ait autant que ça, parce que je me souviens que dans la série Cheval-Serpent, le maire de Montréal, il voulait donc qu'il s'attaque au problème des salons de massage. T'es-tu dans cette série-là? Il y en a autant qui va me confirmer au 25 de 2-6.
Pas possible, mais à Montréal, il y a des routes, en a 4-5. Des routes, en a 4-5 de suite, et ils sont affichés. C'est complètement différent. À Québec, ils ne sont pas affichés. À Montréal, c'est affiché.
Oui, tu as des lumières clignotantes.
Oui, puis les conseillers municipaux reçoivent beaucoup de plaintes à Montréal à ce niveau-là, des gens qui habitent dans leur quartier, finalement, parce que c'est vraiment un problème. Et il me semble que c'était dans Cheval-Serpent que le problème majeur pour le maire, c'était vraiment qu'il voulait enrayer.
Puis dans un quartier résidentiel, avec les clients, ça cause tout un va-et-vient constant de clients à toute heure de la nuit qui rentrent. Donc,
Donc, 14 en tout, 12 à Québec, 2 à Lévis. Et il y en a 8 fois moins qu'à Montréal au prorata. Donc, il n'y a pas de quoi s'alarmer pour l'instant.
Dormez tranquille.
Oui, 8h26.
Ségal, La Voix, le midi, lundi au vendredi, dès 11h, au FM 93.
Chez Kia Lévis, on est en avance. Et oui, la vente d'après-Noël est déjà commencée. Grâce à un rabais au comptant de 2000$ combiné à notre boni d'avant-Noël de 1000$, le Sorento LXTA est maintenant offert à seulement 27 895$. Vous profitez donc d'un rabais total de 3000$ sur le Sorento, le véhicule parfait pour l'hiver. Profitez de cette offre dès maintenant chez Kia Lévis et faites-vous un cadeau.
Vous êtes un directeur d'entreprise, vous êtes un patron et vous avez envie de gâter un employé en particulier qui s'est démarqué au fil de l'année, qui a vraiment sorti du lot de par son travail, de par sa persévérance, de par le temps qu'il a mis dans l'entreprise aussi. Ben, Infinima Spa vous permet de gâter cet employé-là parce qu'on va remettre un prix à 5 étoiles Infinima. Là, vous devez aller inscrire cet employé-là très spécial sur le site du fm93.com et on va choisir parmi tous les gens qui vont avoir inscrit un employé, 5 personnes qui vont se mériter le titre d'étoile Infinima. Et qu'est-ce qu'on gagne avec ça? Ben, c'est un super forfait Infinima pour deux avec accès au hammam Infinima, un massage pour deux, une pause santé et un verre de champagne. Dans le temps des fêtes, après toute la folie de l'année, ben, c'est toujours bien reçu. S'il y a un employé dans votre entreprise qui s'est démarqué de par son travail ou de par son attitude aussi, de par son comportement, ça peut être n'importe quoi. Allez l'inscrire sur le site web du FM 93 ou sur notre Facebook. C'est une collaboration du Spa Infinima et du FM 93.
Passe-temps 3000, c'est le spécialiste des téléguidés au Québec. Vous cherchez des drones de tout genre, un jouet intelligent ou un train électrique, allez chez Passe-temps 3000. Vous serez conseillé avec le sourire par des passionnés. Passe-temps 3000, un inventaire époustouflant. À Fleur de Lys, entrée 1.
Bijoux Pandora vous propose des cadeaux scintillants pour vous et toutes celles que vous aimez. Découvrez un éventail de bagues, de boucles d'oreilles, de colliers et de bracelets, tous finis à la main en métaux véritables. Besoin d'aide pour trouver le cadeau idéal? Consultez les stylistes des bijouteries Pandora ou choisissez parmi une gamme d'ensembles cadeaux déjà emballés. Magasinez chez Bijoux Pandora dès maintenant.
Trouvez le bijou parfait pour chaque femme unique que vous voulez choyer aux boutiques Pandora des Galeries de la Capitale et de Place Sainte-Foy.
Faire le plein de cadeaux techno, c'est payant chez Télution. Faites vos achats et vous recevez 10% sur les accessoires, comme les protecteurs de vitres à seulement 9,99 $. Il suffit de dire promo 10. Télution ouvert 7 jours sur 7 sur Saint-Sacrement, Saint-Jean, Saint-Romuald et sur Henri Bourassa.
Ben arrête donc, toi! T'es-tu sérieux?
Si PA Méthode était imitateur...
Hein? J'en reviens pas.
Il serait excellent pour imiter les clients de Saint-Foy Nissan et Beauport Nissan lorsqu'ils apprennent que nous offrons nos derniers modèles 2018 à des conditions de fin d'année.
C'est incroyable!
Par exemple, avec 5 000 $ de rabais, la Sentra SV 2018 n'est qu'à 69 $ par semaine avec zéro comptant.
Je t'assomme.
Le grand sol des fêtes, c'est le Boxing Day avant tout le monde chez Saint-Foy Nissan et Beauport Nissan.
Pour des fêtes immensément bonnes, offrez la carte cadeau Charbon Steakhouse et recevez 20% de chaque cadeau en remise sur tranche de 50 et 100 $. Carte cadeau disponible au charbonsteakhouse.com pour un temps limité, se termine le 25 décembre 2018.
Certaines conditions s'appliquent.
2500 cadeaux à 50 % de rabais au 2500 Jean Perrin. C'est la vente d'entrepôt Yves Jacques. Des vêtements d'hiver, Bonger, Mammouth, Patagonia, Burton. De 50 à 70 % de rabais. Jusqu'à dimanche, c'est la vente d'entrepôt Yves Jacques au 2500 Jean Perrin.
Pour vos portes et fenêtres, Menuiserie de Lille vous propose ce qui se fait de mieux sur le marché. Des prix compétitifs, des matériaux de qualité et ils installent eux-mêmes leurs produits. Offrez-vous une visite à leur salle de montre. Estimation gratuite. Pour info, menuiseriedelille.com.
C'est le moment de vous procurer votre F-150. C'est la liquidation de fin d'année chez Lévis Ford. Obtenez plus de 9 000 $ de rabais sur les F-159 2018 sélectionnés. Procurez-vous le vôtre dès aujourd'hui durant la liquidation de fin d'année chez Lévis Ford, 61 Kennedy.
Vous connaissez les pâtes Allegria? Depuis 1997, nous sommes les pionniers de la fabrication des pâtes alimentaires bio au Québec. Trouvez les pâtes Allegria dans plus de 200 points de vente au Québec. Programme de levée de fonds disponible. Visitez produitsallegria.com.
Ne manquez pas l'événement Remise à neuf de Brother qui offre des imprimantes couleurs remises à neuf par des techniciens Brother à seulement 39,99. Même qualité, même garantie. Et la livraison est gratuite. Seulement 39,99. Magasiné à brother.ca dès aujourd'hui. Quantité limitée.
Vous êtes propriétaire d'une entreprise et voulez être visible? Vous devez connaître Gestock. Vêtements, travail et corporatifs, articles promotionnels et équipements de sécurité, vous trouverez tout sous un même toit. Gestock, c'est au 850 Pierre-Bertrand. Ou achetez en ligne sur gestock.ca.
C'est le décompte final Nissan!
Du 20 décembre au 2 janvier, procurez-vous un Qashqai, un Rogue, une Sentra ou tout autre modèle sélectionné à partir de 0 % au financement. De plus, pour un temps limité, obtenez 500 $ de rabais décompte additionnel pour un total allant jusqu'à 6 500 $ de rabais au financement sur d'autres modèles sélectionnés. Faites vite, le décompte final Nissan prend fin le 2 janvier. Visitez choisissez-nissan.ca ou votre concessionnaire Nissan.